La Fontaine, Les amours de Psyché et de Cupidon, quatre amis se promènent à Versailles. Quatre amis dont la connaissance avait commencé par le Parnasse lièrent une espèce de société que j'appellerais académie si leur nombre eût été plus grand et qu'ils eussent autant regardé les muses que le plaisir. La première chose qu'ils firent, ce fut de bannir d'entre eux les conversations réglées et tout ce qui sent la conférence académique. Quand ils se trouvaient ensemble, ce qu'ils avaient bien parlé de leur divertissement, si le hasard les faisait tomber sur quelques points de science ou de belles-lettres, ils profitaient de l'occasion. C'était toutefois, sans s'arrêter trop longtemps à une même matière, voltigeant de propos en haute comme des abeilles qui rencontreraient en leur chemin diverses sortes de fleurs. L'envie, la malignité ni la cabale n'avaient de voix parmi eux. Ils adoraient les ouvrages des anciens, ne refusaient point ceux des modernes les louanges qui leur sont dues, parlaient des leurs avec modestie et se donnaient des avis sincères lorsque quelqu'un d'eux tombait dans la maladie du siècle et faisait un livre, ce qui arrivait rarement. Polyphile y était le plus sujet, c'est le nom que je donnerais à l'un de ses quatre amis. Les aventures de Psyché lui avaient semblé fort propres pour être contées agréablement. Il y travailla longtemps sans en parler à personne. Enfin, il communiqua son dessein à ses trois amis, non pas pour leur demander s'il continuerait, mais comment il trouvait à propos qu'il continuât. L'un lui donna un avis, l'autre un autre, et de tout cela, il ne prit que ce qui lui plut. Quand l'ouvrage fut achevé, il demanda jour et rendez-vous pour le lire. À Kant ne manqua pas, selon sa coutume, de proposer une promenade en quelque lieu hors la ville qui fût éloignée où peu de gens entrassent. On ne les viendrait point interrompre. Ils écouteraient cette lecture avec moins de bruit et plus de plaisir. Il aimait extrêmement les jardins, les fleurs, les ombrages. Polyphile lui ressemblait en cela, mais on peut dire que celui-ci aimait toute chose. Ses passions, qui le remplissaient le cœur d'une certaine tendresse, se répandaient jusqu'en leurs écrits et en formaient le principal caractère. Ils penchaient tous deux vers le lyrique, avec cette différence qu'à Kant avait quelque chose de plus touchant et Polyphile de plus fleuri. Des deux autres amis que j'appellerai Ariste et Gélaste, le premier était sérieux sans être incommode, et l'autre était fort gai. La proposition d'Acanthe fut approuvée. Ariste dit qu'il y avait de nouveaux embellissements à Versailles. Il fallait aller les voir et partir matin, afin d'avoir le loisir de se promener après qu'ils auraient entendu les aventures de Psyché. La partie fut incontinent conclue. Dès le lendemain, ils l'exécutèrent. Les jours étaient encore assez longs et la saison belle. C'était pendant le dernier automne. Nos quatre amis, étant arrivés à Versailles de fort bonne humeur, voulurent voir avant le dîner la ménagerie. C'est un lieu rempli de plusieurs sortes de volatiles et de quadrupèdes, la plupart très rares et de pays éloignés. Ils admirèrent en combien d'espèces une seule espèce d'oiseau se multipliait et louèrent l'artifice et les diverses imaginations de la nature qui se jouent dans les animaux comme elle fait dans les fleurs. Ce qui leur plut davantage, ce furent les demoiselles de Numidie et certains oiseaux pêcheurs qui ont un bec extrêmement long avec une peau dessous qui leur sert de poche. Leur plumage est blanc, mais d'un blanc plus clair que celui des cygnes. Même de près, il paraît carné et tire sur la couleur de rose vers la racine. On ne peut rien voir de plus beau. Ce sont espèces de cormorans. Comme nos gens avaient encore du loisir, ils firent un tour à l'orangerie. La beauté, le nombre des orangers et des autres plantes qu'on y conserve ne se saurait exprimer. Il y a tel de ces arbres qui a résisté aux attaques de 100 hivers. À Kant, ne voyant personne autour de lui que ses trois amis, celui qui les conduisait était éloigné, À Kant, dis-je, ne se put tenir de réciter certains couplets de poésie que les autres se souvinrent d'avoir vu dans un ouvrage de sa façon. Sommes-nous, dit-il, en Provence, quel amas d'arbres toujours verts triomphe ici de l'inclémence des aquilons et des hivers. Jasmin dont un air doux s'exhale, fleurs que les vents n'ont pu ternir, amintes en blancheur vous égale, et vous m'en faites souvenir. Oranger, arbre que j'adore, que vos parfums me semblent doux, est-il dans l'empire de flore, rien d'agréable comme vous? Vos fruits aux écorces solides sont un véritable trésor, et le jardin des Hespérides n'avait point d'autres pommes d'or. Lorsque votre automne s'avance, on voit encore votre printemps. L'espoir avec la jouissance loge chez vous en même temps. Vos fleurs ont embaumé tout l'air que je respire. Toujours un aimable zéphyr autour de vous se va jouant. Vous êtes nain, mais tel arbre géant qui déclare au soleil la guerre ne vous vaut pas, bien qu'il couvre un arpent de terre avec ses bras. La nécessité de manger fit sortir nos gens de ce lieu si délicieux. Tout leur dîner se passa à s'entretenir des choses qu'ils avaient vues et à parler du monarque pour qui on a assemblé tant de beaux objets. Après avoir loué ses principales vertus, les lumières de son esprit, ses qualités héroïques, la science du commander, après, dis-je, l'avoir loué fort longtemps, ils revinrent à leur premier entretien et dirent que Jupiter seul peut continuellement s'appliquer à la conduite de l'univers. Les hommes ont besoin de quelques relâches. Alexandre faisait la débauche, Auguste jouait, Scipion et Lélius s'amusaient souvent à jeter des pierres plates sur l'eau. Notre monarque se divertit à faire bâtir des palais, cela est digne d'un roi. Il y a même une utilité générale, car par ce soin-rien, les sujets peuvent prendre part au plaisir du prince et voir avec admiration ce qui n'est pas fait pour eux. Tant de beaux jardins et de somptueux édifices sont la gloire de leur pays. Et que ne disent point les étrangers, que ne dira point la postérité quand elle verra ces chefs-d'œuvre de tous les arts. Les réflexions de nos quatre amis finirent par éclore repas. Ils retournèrent au château, virent les dedans, que je ne décrirai point, ce serait une œuvre infinie. Entre autres beautés, ils s'arrêtèrent longtemps à considérer le lit, la tapisserie et les sièges dont on a meublé la chambre et le cabinet du roi. C'est un tissu de la Chine plein de figures qui contiennent toute la religion de ce pays-là. Faute de Brachman, nos quatre amis n'y comprirent rien. Du château, ils passèrent dans les jardins et prièrent celui qui les conduisait de les laisser dans la grotte jusqu'à ce que la chaleur fût adoucie. Ils avaient fait apporter des sièges. Leur billet venait de si bonne part qu'on leur accorda ce qu'ils demandaient. Même afin de rendre le lieu plus frais, on en fit jouer les eaux. Les quatre amis ne voulurent point être mouillés. Ils prièrent celui qui leur faisait voir la grotte de réserver ce plaisir pour le bourgeois ou pour l'allemand, et de les placer en quelque coin où ils fussent à couvert de l'eau. Ils furent traités comme ils souhaitaient. Quand leur conducteur les eut quittés, ils s'assirent à l'entour de Polyphile, qui prit son cahier, et, ayant toussé pour se nettoyer la voix, il commença par ces quelques vers. Le dieu qu'on nomme amour n'est pas exempt d'aimer. À son flambeau, quelquefois, il se brûle, et si ses traits ont eu la force d'entamer les cœurs de Pluton et d'Hercule, il n'est pas inconvénient qu'étant aveugle, étourdi, téméraire, il se blesse en les maniant. Je n'y vois rien qui ne se puisse faire. Témoin psyché, dont je veux vous conter la gloire et les malheurs chantés par Apulée. Cela vaut bien la peine d'écouter, l'aventure en est signalée. Polyphile, tout ça encore une fois après cet exorde. Puis chacun s'étant préparé de nouveau pour lui donner plus d'attention, il commença ainsi son histoire. La jalousie de Vénus. Lorsque les villes de la Grèce étaient encore soumises à des rois, il y en eut un qui, régnant avec beaucoup de bonheur, se vit non seulement aimé de son peuple, mais aussi recherché de tous ses voisins. C'était à qui gagnerait son amitié, c'était à qui vivrait avec lui dans une parfaite correspondance, et cela parce qu'il avait 3 filles à marier. Toutes 3 étaient plus considérables par leurs attraits que par les états de leur père. Les 2 aînées eussent pu passer pour les plus belles filles du monde si elles n'eussent point eu de cadette. Mais véritablement, cette cadette leur nuisait fort. Elles n'avaient que ce défaut-là, défaut qui était grand, à n'en point mentir, car Psyché, c'est ainsi que leur jeune sœur s'appelait, Psyché, dis-je, possédait tous les appâts que l'imagination peut se figurer et ceux où l'imagination même ne peut atteindre. Bon, je ne m'amuserai point à chercher des comparaisons jusque dans les astres pour vous les présenter aussi dignement. C'était quelque chose au-dessus de tout cela et qui ne se serait exprimé par les lys, les roses, l'ivoire ni le corail. Elle était telle, enfin, que le meilleur poète aurait de la peine à en faire une pareille. En cet état, il ne se faut pas étonner si la reine de Cythère en devint jalouse. Cette déesse appréhendait, et non sans raison, qu'il ne lui faillit renoncer à l'empire de la beauté et que Psyché ne la détrônât. Car, comme on est toujours amoureux de choses nouvelles, chacun courait à cette nouvelle Vénus. Cythérée se voyait réduite aux seules îles de son domaine. Encore une bonne partie des amours, anciens habitants de ces îles bienheureuses, la quittaient-ils pour se mettre au service de sa rivale. L'herbe croissait dans ses temples qu'elle avait vu naguère si fréquentée. Plus d'offrandes, plus de dévots, plus de pèlerinages pour l'honorer. Enfin, la chose passa si avant qu'elle en fit ses plaintes à son fils et lui représenta que le désordre irait jusqu'à lui. « Mon fils, dit-elle en lui baisant les yeux, la fille d'un mortel en veut à ma puissance. Elle a juré de me chasser des lieux où l'on me rend obéissance. » Et qui sait si son insolence n'ira pas jusqu'au point de me vouloir ôter le rang que dans les cieux je pense mériter. Paphos n'est plus qu'un séjour importun. Des grâces et des ris la troupe m'abandonne. Tous les amours, sans en excepter un, s'en vont servir cette personne. Si Psyché veut notre couronne, il faut la lui donner. Elle seule aussi bien fait en Grèce à présent votre fils et le mien. L'un de ces jours, je lui vois pour époux le plus beau, le mieux fait de tout l'humain lignage. Sans le tenir de vos traits, ni de vous, sans vous en rendre aucun hommage, il naîtra de leur mariage un autre Cupidon, qui d'un de ses regards fera plus 1000 fois que vous avez avec vos nards. Prenez-y garde! Il vous y faut songer. Rendez-la malheureuse, et que cette cadette, malgré les siens, épouse un étranger qui ne sache où trouver retraite, qui soit laid et qui la maltraite, la fasse consumer en regards superflus, tant que ni vous ni moi nous ne la craignons plus. Ces extrémités où s'emporta la déesse marque merveilleusement bien le naturel et l'esprit des femmes. Rarement se pardonne-t-elle l'avantage de la beauté, et je dirais en passant que l'offense la plus irrémissible parmi ce sexe, c'est quand l'une d'elles en défait une autre en pleine assemblée. Cela se venge ordinairement comme les assassinats et les trahisons. Pour revenir à Vénus, son fils lui promit qu'il la vengerait. Sur cette assurance, elle s'en alla à Cythère en équipage de triomphant. Au lieu de passer par les airs et de se servir de son char et de ses pigeons, elle entra dans une conque de nacre attelée de deux dauphins. La cour de Neptune l'accompagna. Ceci est proprement matière de poésie. Il ne sied guère bien à la prose de décrire une cavalcade de dieux marins. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse exprimer avec le langage ordinaire ce que la déesse parut alors. C'est pourquoi nous dirons en langage rimé que l'empire flottant demeure charmé. C'est cent tritons la suivant jusqu'au port de Cythère. Par leurs divers emplois, s'efforcent de lui plaire. L'un nage alentour d'elle, et l'autre au fond des eaux lui cherche du corail et des trésors nouveaux. L'un lui tient un miroir fait de cristal de roche. Au rayon du soleil, l'autre en défend l'approche. Palémon qui la guide évite les rochers. Glauque de son cornet fait retentir les mers. Thétis fait ouïr un concert de sirènes. Tous les vents attentifs retiennent leurs haleines. Le seul Zéphyr est libre et d'un souffle amoureux. Il caresse Vénus, se joue à ses cheveux. Contre ses vêtements par bois il se couronne, et l'onde pour la toucher à long flot s'entrepousse, et d'une égale ardeur chaque flot à son tour s'en vient baiser les pieds de la mère d'amour. Ben, cela devait être beau, dit Gélaste, mais j'ai beau bien avoir vu votre déesse au milieu d'un bois, habillée comme elle était quand elle plaida sa cause devant un berger. Chacun sourit de ce qu'avait dit Gélaste, puis Polyphile continua en ces termes. Le palais merveilleux. À peine Vénus eut fait un mois de séjour à Cythère, qu'elle sut que les sœurs de son ennemi étaient mariées, que leurs maris, qui étaient deux rois très voisins, les traitaient avec beaucoup de douceur et de témoignages d'affection, enfin qu'elles avaient sujet de se croire heureuses. Quant à leur cadette, il ne lui était resté pas un seul amant, elle qui en avait eu une telle foule que l'on savait à peine le nombre. Il s'était retiré comme par miracle, soit que ce fût le vouloir des dieux, soit par une vengeance particulière de Cupidon. On avait encore de la vénération, du respect, de l'admiration pour elle, si vous voulez, mais on n'avait plus de ce qu'on appelle amour. Cependant, c'est la véritable pierre de touche à quoi l'on juge ordinairement les charmes de ce beau sexe. Cette solitude de soupirant près d'une personne du mérite de Psyché fut regardée comme un prodige et fit craindre au peuple de la Grèce qu'il ne leur arrivât quelque chose de fort sinistre. En effet, il y avait de quoi s'étonner. De tout temps, l'empire de Cupidon, aussi bien que celui des flots, a été sujet à des changements. Mais jamais il n'en était arrivé de semblable. Au moins n'y en avait-il point d'exemple dans ce pays. Si Psyché n'eût été que belle, on ne l'eût pas trouvée si étrange. Mais, comme j'ai dit, outre la beauté qu'elle possédait en un souverain degré de perfection, il ne lui manquait aucune des grâces nécessaires pour se faire aimer. On lui voyait un million d'amours et pas un amant. Après que chacun eut bien raisonné sur ce miracle, Vénus déclara qu'elle en était cause, qu'elle s'était ainsi vengée par le moyen de son fils, que les parents de Psyché n'avaient qu'à se préparer à d'autres malheurs, parce que son indignation durerait autant que la vie, ou du moins autant que de la beauté de leur fille, qu'ils auraient beau s'humilier devant ses autels, et que les sacrifices qu'ils lui feraient serait inutile à moins que de lui sacrifier Psyché elle-même. Bon, c'est ce qu'on n'était pas résolu de faire. Loin de cela, quelques personnes dirent à la belle que la jalousie de Vénus était un témoignage bien glorieux, et que ce n'était pas être trop malheureuse que de donner de l'envie à une déesse, et à une déesse telle que celle-là. Psyché eût voulu que ses fleurettes lui eussent été dites par un amant. Bien que sa fierté l'empêchât de témoigner aucun des plaisirs, elle ne laissait pas de verser des pleurs en secret. Mais qu'ai-je fait au fils de Vénus? Disait-elle souvent en soi-même. Et que lui ont fait mes sœurs, qui sont si contentes? Elles ont eu des amants de reste, et moi qui croyais être la plus aimable, je n'en ai plus. De quoi me sert ma beauté? Les dieux, en me la donnant, ne m'ont pas fait un si grand présent que l'on s'imagine. Je leur rends la meilleure part. Qu'ils me laissent au moins un amant. Il n'y a fille si misérable qu'il en est un. La seule Psyché ne saurait rendre personne heureux. Les cœurs que le hasard lui a donnés, son peu de mérite les lui fait perdre. Mais comment me puis-je montrer après cet affront? Va, Psyché, va te cacher au fond de quelque désert. Les dieux ne t'ont point faite pour être vue, puisqu'ils ne t'ont pas faite pour être aimée. Tandis qu'elle se plaignait ainsi, ses parents ne s'affligeaient pas moins de leur part. Et ne pouvant se résoudre à la laisser sans mari, ils furent contraints de recourir à l'oracle. Voici la réponse qui leur fut faite avec la glose que les prêtres y ajoutèrent. L'époux que les destins gardent à votre fille est un monstre cruel qui déchire les cœurs, qui trouble maint état, détruit mainte famille, se nourrit de soupirs, se baigne dans les pleurs. À l'univers entier, il déclare la guerre. Courant de bout en bout un flambeau dans la main. On le craint dans les cieux, on le craint sur la terre. Le Styx n'a pu borner son pouvoir souverain. C'est un empoisonneur, c'est un incendiaire, un tyran qui de fer charge jeunes et vieux. Qu'on lui livre Psyché, quelle tâche à lui plaire. Tel est l'arrêt du sort, de l'amour et des dieux. Menez-la sur un roc, haut d'une montagne, en des lieux où l'attend le monstre, son époux, qu'une pompe funèbre en ses yeux l'accompagne, car elle doit mourir pour ses sœurs et pour vous. Je laisse à juger l'étonnement et l'affliction que cette réponse causa. Livrer Psyché au désir d'un monstre. Y avait-il la justice à cela? Aussi les parents de la belle doutèrent longtemps s'ils obéiraient. D'ailleurs, le lieu où il la fallait conduire n'avait point été spécifié par l'oracle. De quel mont les dieux voulaient-ils parler? Était-il voisin de la Grèce ou de la Scythie? Était-il situé sous l'ours ou dans les climats brûlants de l'Afrique? Car on dit que dans cette terre, il y a de toutes sortes de monstres. Le moyen de se résoudre à laisser une beauté délicate sur un rocher, entre des montagnes et des précipices, à la merci de ce qu'il y a de plus épouvantable dans la nature. Enfin, comment rencontrer cet endroit fatal? C'est ainsi que les bonnes gens cherchaient des raisons pour garder leur fille, mais elle-même leur représenta la nécessité de suivre l'oracle. Je dois mourir, dit-elle à son père. Il n'est pas juste qu'une simple mortelle comme je suis entre en parallèle avec la mère de Cupidon. Que gagneriez-vous à lui résister? Votre désobéissance vous attirerait une peine encore plus grande. Quelle que puisse être mon aventure, j'aurai lieu de me consoler comme je vous en serai plus un sujet de larmes. Défaites-vous de cette psyché sans qui votre vieillesse ne serait heureuse. Souffrez que le ciel punisse une ingrate pour qui vous n'avez pas eu que trop de tendresse et qui vous récompense si mal des inquiétudes et des soins que son enfance vous a donnés. Tandis que Psyché parlait à son père de cette sorte, le vieillard la regardait en pleurant, et ne lui répondait que par des soupirs. Mais ce n'était rien en comparaison du désespoir où était la mère. Quelquefois elle courait par les temples tout échevelée, d'autres fois elle s'emportait en blasphème contre Vénus. Puis, tenant sa fille embrassée, protestait de mourir plutôt que de souffrir qu'on la lui ôtât pour l'abandonner à un monstre. Il fallut pourtant obéir. En ce temps-là, les oracles étaient maîtres de toutes choses. On courait au devant de son malheur propre, de crainte qu'il ne fût trouvé menteur. Tant la superstition avait de pouvoir sur les premiers hommes. La difficulté n'était donc plus que de savoir sur quelle montagne il fallait conduire Psyché. L'infortunée fille éclaircit encore ce doute. « Qu'on me mette, dit-elle, sur un chariot, sans cocher ni guide, et qu'on laisse aller les chevaux à leur fantaisie. Le sort les guidera infailliblement au lieu ordonné. » Je ne veux pas dire que cette belle, trouvant à tout des expédients, fut de l'humeur de beaucoup de filles qui aiment mieux avoir un méchant mari que de n'en point avoir du tout. Il y a de l'apparence que le désespoir, plutôt que d'autres choses, lui faisait chercher ses facilités. Quoi que ce soit, on se résout à partir. On fait dresser un appareil de pompe funèbre pour satisfaire à chaque point de l'oracle. On part enfin, et Psyché se met en chemin sous la conduite de ses parents. La voilà sur un char d'ébène, une urne auprès d'elle, la tête penchée sur sa mère. Son père, marchant à côté du char, et faisant autant de soupirs qu'il faisait de pas. Force Jean, la suite, vêtue de deuil. Force ministre de funérailles. Force sacrificateur, portant de longs vases et de longs cornets, dont ils entonnaient des sons fort lugubres. Les peuples voisins, étonnés de la nouveauté d'un tel apparat, ne savaient que conjecturer. Ceux chez qui le convoi passait l'accompagnaient par honneur jusqu'aux limites de leur territoire, chantant des hymnes à la louange de Psyché, leur jeune déesse, et jonchant de roses tout le chemin, bien que les maîtres de cérémonie leur criassent que c'était offensé Vénus. Mais quoi, les bonnes gens ne pouvaient retenir leurs ailes. Après une traite de plusieurs jours, lorsque l'on commençait à douter de la vérité de l'oracle, on fut étonné qu'en côtoyant une montagne fort élevée, les chevaux, bien qu'ils fussent frais et nouveaux repus, s'arrêtèrent court et, quoi qu'on pût faire, ils ne voulurent point passer outre. Ce fut là que se renouvelèrent les cris, car on jugea bien que c'était le mont qu'entendait l'oracle. Psyché descendit du char et s'étant mise entre l'un et l'autre de ses parents, suivie de la troupe, elle passa dans un bois assez agréable, mais qui n'était pas de longue étendue. À peine eut-il fait quelques 1000 pas, toujours en montant, qui se trouvèrent entre des rochers habités par des dragons de toutes espèces. À ces hôtes près, le lieu se pouvait bien dire une solitude et la plus effroyable qu'on pût trouver. Pas un seul arbre, pas un brin d'herbe, point d'autre couvert que ces rocs, dont quelques-uns avaient des pointes qui avançaient en forme de voûte et qui, ne tenant presque à rien, faisaient appréhender à nos voyageurs qu'elles ne tombassent sur eux. D'autres se trouvaient creusés en beaucoup d'endroits par la chute des forans. Ceux-ci servaient de retraite aux hydres, animal fort familier en cette contrée. Chacun demeura si surpris d'horreur que, sans la nécessité d'obéir au sort, on s'en fut retourné tout court. Il fallut donc gagner le sommet, malgré qu'on en eût. Puis on allait en avant, plus le chemin était escarpé. Enfin, après beaucoup de détours, on se trouva au pied d'un rocher d'énorme grandeur, lequel était au faîte de la montagne, et où l'on jugea qu'il fallait laisser l'infortunée fille. Bon, de représenter à quel point l'affliction se trouva montée, oh, c'est ce qui surpasse mes forces. L'éloquence est le même, impuissante à le dire. Confesse que ceci n'est point de son empire. C'est au silence seul d'exprimer les adieux des parents de la belle au partir de ces lieux. Je ne décrirai point ni leur douleur amère, ni les pleurs de Psyché, ni les cris de sa mère, qui du fond des rochers renvoyés dans les airs, firent de bout en bout retentir ses déserts. Elle plaint de son sang la cruelle aventure, implore le soleil, les astres, la nature, croit fléchir par ses cris les auteurs du destin. Il lui faut arracher la fille de son sein. Après 1000 sanglots, enfin, on les sépare. Le soleil, las de voir ce spectacle barbare, précipite sa course et, passant sous les eaux, va porter la clarté chez des peuples nouveaux. L'horreur de ces déserts s'accroît par son absence. La nuit vient sur un char conduit par le silence. Il amène avec lui la crainte en l'univers. La part que connut Psyché ne fut pas des moindres. Représentez-vous une fille qu'on a laissée seule dans des déserts effroyables, et pendant la nuit, il n'y a point de compte d'apparition et d'esprit qui ne lui reviennent dans la mémoire. À peine ose-t-elle ouvrir la bouche afin de se plaindre. En cet état, et mourant presque d'appréhension, elle se sentit enlevée dans l'air. D'abord, elle se tint pour perdue et crut qu'un démon allait l'emporter en des lieux d'où jamais on la verrait revenir. Cependant, c'était le Zéphyr qui, incontinent, la tira de peine et lui dit l'ordre qu'il avait de l'enlever de la sorte et de la mener à cet époux dont parlait l'oracle et au service duquel il était. Psyché se laissa flatter à ce que lui dit le Zéphyr, car c'est un des dieux les plus agréables. Ce ministre, aussi fidèle que dirige ses volontés, de son maître la porta au du haut du rocher. Après qu'il lui eut fait traverser les airs avec un plaisir qu'elle aurait mieux goûté dans un autre temps, elle se trouva dans la cour d'un palais superbe. Notre héroïne, qui commençait à s'accoutumer aux aventures extraordinaires, eut bien l'assurance de contempler ce palais à la clarté des flambeaux qui l'environnaient. Toutes les fenêtres en étaient bordées. Le firmament, qui est la demeure des dieux, ne parut jamais si bien éclairé. Tandis que Psyché considérait ses merveilles, une troupe de nymphes la vint recevoir jusque par-delà le perron. Et après une inclination très profonde, la plus apparente lui fit une espèce de compliment à quoi la belle ne s'était nullement attendue. Elle s'en tira pourtant assez bien. La première chose fut de s'enquérir du nom de celui à qui appartenait et des lieux si charmants. Et il est à croire qu'elle demanda de le voir. Mais on ne lui répondit là-dessus que confusément. Puis ses nymphes la conduisirent en un vestibule d'où l'on pouvait découvrir d'un côté les cours et de l'autre côté les jardins. Psyché le trouva proportionné à la richesse de l'édifice. De ce vestibule, on la fit passer en des salles que la magnificence elle-même avait pris la peine d'orner, et dont la dernière enchérissait surtout et toujours sur la précédente. Enfin, cette belle entra dans un cabinet où on lui avait préparé un bain. Aussitôt, ses nymphes se mirent en devoir de la déshabiller et de la servir. Elle fit d'abord quelques résistances, et puis leur abandonna toute sa personne. Au sortir du bain, on la revêtit d'habits nuptiaux. Je laisse à penser quelle il pouvait être, et si l'on y avait épargné les diamants et les pierreries. Il est vrai que c'était l'ouvrage de fée, laquelle d'ordinaire ne coûte rien. Ce ne fut pas une petite joie pour Psyché de se voir si brave et de se regarder dans les miroirs dont le cabinet était plein. Cependant, on avait mis le couvert dans la salle la plus proche. Il y fut servi de l'ambroisie en toutes les sortes. Quant au nectar, les amours en furent les enchansons et Psyché mangea peu. Après le repas, une musique de luth et de voix se fit entrant dans l'un des coins du plafond, sans qu'on vît ni chantre ni instrument. Musique aussi douce et aussi charmante que si Orphée et Amphio en eussent été les constructeurs. Parmi les airs qui furent chantés, il y en eut qui plut plus particulièrement à Psyché. Je vais vous en dire les paroles que j'ai mises en notre langue au mieux que j'ai pu. Tout l'univers obéit à l'amour. Belle Psyché, soumettez-lui votre âme. Les autres dieux à ce dieu font la cour, et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien. Aimez, aimez, oh, tout le reste n'est rien. Sans cet amour, tant d'objets ravissants, lambris dorés, bois, jardins et fontaines, n'ont point d'appât qui ne soit languissant, et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. De jeunes cœurs, c'est le suprême bien. Aimez, aimez, tout le reste n'est rien. Dès que la musique eut cessé, on dit à Psyché qu'il était temps de se reposer. Il lui prit alors une petite inquiétude accompagnée de crainte, et telle que les filles l'ont d'ordinaire le jour de leurs noces, sans savoir pourquoi. La belle fit toutefois ce que l'on voulut. On la met au lit et on se retire. Un moment après, celui qui en devait être le possesseur arriva et s'approcha d'elle. Bon, on n'a jamais su ce qu'ils se dirent, ni même d'autres circonstances, bien plus importantes que celles-là. Seulement a-t-on remarqué que le lendemain, les nymphes riaient entre elles et que Psyché rougissait en les voyant rire. La belle ne s'en mit pas fort en peine, et n'en parut pas plus triste qu'à l'ordinaire. Pour revenir à la première nuit de ses noces, la seule chose qui l'embarrassait était que son mari l'avait quitté devant qu'il fût jour et lui avait dit que, pour beaucoup de raisons, il ne voulait pas être connu d'elle et qu'il la priait de renoncer à la curiosité de le voir. Ce fut ce qui lui en donna davantage. « Quelles peuvent être ses raisons ?» disait en soi-même la jeune épouse. « Et pourquoi se cache-t-il avec tant de soin ?» Assurément, l'oracle nous a dit vrai quand il nous l'a peint comme quelque chose de fort terrible. Si est-ce qu'au toucher au son de voix, il ne m'a semblé nullement que ce fût un monstre. Toutefois, les dieux ne sont pas menteurs. Il faut que mon mari ait quelques défauts remarquables. Si cela était, je serais bien malheureuse. Ces réflexions tempérèrent pour quelques moments la joie de Psyché. Enfin, elle trouva à propos de n'y plus penser et de ne point corrompre elle-même les douceurs de son mariage. Dès que son époux l'eut quitté, elle tira les rideaux. À peine le jour commençait à poindre. En l'attendant, notre héroïne se mit à rêver à ses aventures, particulièrement à celle de cette nuit. Ce n'était pas véritablement les plus étranges qu'elle eût courues, mais elle en revenait toujours à ce mari qui ne voulait point être vu. Psyché s'enfonça si avant en ses rêveries qu'elle en oublia ses ennuis passés, les frayeurs du jour précédent, les adieux de ses parents et ses parents même. Et là-dessus, elle s'endormit. Aussitôt, le songe lui représente son mari sous la forme d'un jouvenceau de 15 à 16 ans, beau comme l'amour, et qui avait toute l'apparence d'un dieu. Transportée de joie, la belle l'embrasse. Il veut échapper, elle crie. Mais personne n'accourt au bruit. « Qui que vous soyez, dit-elle, et vous ne sauriez être qu'un dieu, je vous tiens au charmant époux, et je vous verrai tant qu'il me plaira. » L'émotion l'ayant éveillée, il ne lui demeura que le souvenir d'une illusion agréable. Et au lieu d'un jeune mari, la pauvre Psyché, ne voyant en cette chambre que des dorures, ce qui n'était pas ce qu'elle cherchait, ses inquiétudes recommencèrent. Le sommeil eut encore une fois pitié d'elle. Il la replongea dans les charmes de ses pavots, et la belle acheva ainsi la première nuit de ses noces. Comme il était tard, les nymphes entrèrent et la trouvèrent encore tout endormie. Pas une ne lui en demanda la raison, ni comment elle avait passé la nuit, mais bien si elle se voulait lever et de quelle façon il lui plaisait qu'on l'habillât. En disant cela, on lui montre 100 sortes d'habits, la plupart très riches. Elle choisit le plus simple, se lève, se fait habiller avec précipitation et témoigne aux nymphes une impatience de voir les raretés de ce beau séjour. On l'amène donc en toutes les chambres. Il n'y a point de cabinet ni d'arrière-cabinet qu'elle ne visite et où elle ne trouve un nouveau sujet d'admiration. De là, elle passe sur les balcons, et de ces balcons, les nymphes lui font remarquer l'architecture de l'édifice, autant qu'une fille est capable de la concevoir. Elle se souvient qu'elle n'a pas assez regardé de certaines tapisseries. Elle rentre donc comme une jeune personne qui voudrait tout voir à la fois et qui ne sait à quoi s'attacher. Les nymphes avaient assez de peine à la suivre, l'avidité de ses yeux la faisant courir sans cesse de chambre en chambre et considérer à la hâte les merveilles de ce palais, ou par un enchantement prophétique, ce qui n'était pas encore et ce qui ne devrait jamais être, se rencontrait. On fit ces murs d'un marbre aussi blanc que l'albâtre. Les dedans sont ornés d'un porphyre luisant. Ces ordres dont les Grecs nous ont fait un présent, le dorique sans phare, l'élégant ionique, et le corinthien, superbe et magnifique, l'un sur l'autre placé, élève jusqu'aux cieux ce pompeux édifice où tout charme les yeux. Pour servir d'ornement à ces divers étages, l'architecte y posa les vivantes images de ces objets divins. Cléopâtre, Phrynée, par qui sont les héros en triomphe menés. Ces fameuses beautés dont la grâce se vante, celles que le Parnasse en ses fables nous chante, ou de qui nos romans font de si beaux portraits, à l'envi sur le marbre étalaient leurs attraits. L'enchanteresse Armide, héroïne du Tasse, à côté d'Angélique avait trouvé sa place. On y voyait surtout Hélène au cœur léger, qui causa tant de maux pour un prince berger. Psyché, dans le milieu, voit aussi sa statue, de ces reines des cœurs pour elle reconnue. La belle, à cet aspect, s'applaudit en secret, et n'en peut détacher ses beaux yeux qu'à regret. Mais on lui montre encore d'autres marques de gloire. Là, ses traits sont de marbre, ailleurs ils sont d'ivoire. Les disciples d'Arachné, à l'envi des pinceaux, en sont aussi formés de différents tableaux. Dans l'un, on voit les fils divertir cette belle, dans l'autre, les amours dansent alentour d'elle. Et sur cette autre toile, Phrosine et ses sœurs orne ses blonds cheveux de guirlandes de fleurs. Enfin, soit aux couleurs ou bien dans la sculpture, Psyché dans mille endroits rencontre sa figure, sans parler des miroirs et du cristal des eaux que ses traits imprimés font paraître plus beaux. Les endroits où la belle s'arrêta le plus, ce furent les galeries. Là, les raretés, les tableaux, les bustes, non de la main des Apelles ou des Phidias, mais de la main même des fées, qui ont été les maîtresses de ces grands hommes, composaient un amas d'objets qui éblouissaient la vue et qui ne laissaient pas de lui plaire, de la charmer, de lui causer des ravissements, des extases. En sorte que Psyché, passant d'une extrémité en une autre, demeura longtemps immobile et parut la plus belle statue de ces lieux. Des galeries, elle repasse encore dans les chambres afin d'en considérer les richesses, les précieux meubles, les tapisseries de toutes les sortes et d'autres ouvrages conduits par la fille de Jupiter. Surtout, on voyait une grande variété dans ces choses et dans l'ordonnance de chaque chambre. Colonnes de porphyre aux alcôves. Ne vous étonnez pas de ce mot d'alcôve. C'est une invention moderne, je vous l'avoue, mais ne pouvait-elle pas être dès lors en esprit des fées? Et ne serait-ce point de quelques descriptions de ce palais que les Espagnols, les Arabes, si vous voulez, l'aurait prise. Les chapiteaux de ces colonnes étaient des reins de Corinthe pour la plupart. Ajoutez à cela les balustres d'or. Quant au lit, où c'était broderie de perles, où c'était un travail si beau que l'étoffe n'en devait pas être considérée. Je n'oublierai pas, comme on peut penser, les cabinets et les tables de tierreries. Vases singuliers et par leur matière et par l'artifice de leurs gravures. Enfin, de quoi surpasser en prix l'univers entier. Si j'entreprenais de décrire seulement la quatrième partie de ces merveilles, je me rendrais sans doute importun, car à la fin on s'ennuie de tout et des belles choses comme du reste. Je me contenterai donc de parler d'une tapisserie relevée d'or, laquelle on fit remarquer principalement à Psyché, non tant pour l'ouvrage, quoiqu'il fût rare, que pour le sujet. La fameuse toile était composée de 6 pièces. Dans la première, on voyait un chaos, masse confuse, et de qui l'assemblage faisait lutter contre l'orgueil des flots, des tourbillons d'une flamme volage. Non loin de là, dans un même monceau, l'air gémissait sous le poids de la terre. Ainsi, le feu, l'air, la terre avec l'eau entretenaient une cruelle guerre. Que fait l'amour? Volant de bout en bout, ce jeune enfant, sans beaucoup de mystère, en badinant vous débrouille le tout mille fois mieux qu'un sage n'eût su faire. Dans la seconde, un cyclope amoureux, pour plaire aux yeux d'une nymphe jolie, se démêlait la barbe et les cheveux, ce qu'il n'avait encore fait de sa vie. Pour sortir du bain, on la revêtit d'habits nuptiaux. En se moquant, la nymphe s'enfuyait. Amour latin, et l'on voyait la belle qui, dans un bois, le cyclope le priait, qu'il excusa d'avoir été rebelle. Dans la troisième, Cupidon paraissait assis sur un char tiré par des tigres. Derrière ce char, un petit amour menait en laisse 4 grands dieux. Jupiter, Hercule, Mars et Pluton. Tandis que d'autres enfants les chassaient et en faisaient marcher à leur fantaisie. La quatrième et la cinquième représentaient en d'autres matières la puissance de Cupidon. Et dans la sixième, ce dieu, quoiqu'il eût sujet d'être fier des dépouilles de l'univers, s'inclinait devant une personne de taille parfaitement belle et qui témoignait à son tour une très grande jeunesse. C'est tout ce qu'on en pouvait juger, car on ne lui voyait point le visage, et elle avait alors la tête tournée comme si elle eût voulu se débarrasser d'un nombre infini d'amour qui l'environnait. L'ouvrier avait peint le dieu dans un grand respect, tandis que les jeux et les ris qu'il avait amenés à sa suite se moquaient de lui en cachette et se faisaient signe du doigt que leur maître était attrapé. Les bordures de cette tapisserie étaient toutes pleines d'enfants qui se jouaient avec des massues, des fous dans les tridents. Et l'on voyait en beaucoup d'endroits pendre pour trophée, force bracelets et autres ornements de femmes. Parmi cette diversité d'objets, rien ne plus tente à la belle que de rencontrer partout son portrait ou bien sa statue ou quelque autre ouvrage de cette nature. Il semblait que ce palais fût un temple et Psyché, la déesse à qui il était consacré. Mais de peur que le même objet se présentant si souvent à elle ne lui devint ennuyeux, les fées l'avaient diversifié, comme vous savez que leur imagination est féconde. Dans une chambre, elle était représentée en amazone, dans une autre en nymphe, en bergère, en chasseresse, en grec, en persane, en 1000 façons différentes et si agréables, que cette belle eut la curiosité de les éprouver un jour l'une, un autre jour l'autre, plus par divertissement et par jeu que pour en tirer aucun avantage sa beauté se soutenant assez d'elle-même. Cela se passait toujours avec beaucoup de satisfaction de sa part, force louange de la part des nymphes, un plaisir extrême de la part du monstre, c'est-à-dire de son époux, qui avait mille moyens de la contempler sans qu'il se montrât. Psyché se fit donc impératrice, simple bergère, ce qui lui plut. Ce ne fut pas sans que les nymphes lui disent qu'elle était belle en toutes sortes d'habits, et sans qu'elle-même se le dit aussi. « Ah, si mon mari me voyait parer de la sorte, » s'écriait-elle, souvent étant seule. En ce moment-là, son mari la voyait peut-être de quelque endroit d'où il ne pouvait être vu. Et outre le plaisir de la voir, il avait celui d'apprendre ses plus secrètes pensées et de lui entendre faire un souhait où l'amour avait pour le moins autant de part que la bonne opinion de soi-même. Enfin, il ne se passa presque point de jour que Psyché le changea d'ajustement. « Bon, changer d'ajustement tous les jours !» s'écria Acanthe. « Je ne voudrais point d'autre paradis pour nos dames !» On avoua qu'il avait raison, et il n'y en eut pas un dans la compagnie qui ne souhaitât un pareil bonheur à quelque femme de sa connaissance. Cette réflexion étant faite, Polyphile reprit ainsi.